Lorsque Agar est renvoyée par Abraham, elle est exilée dans le désert. Quand elle n'a plus d'eau, elle pose son enfant sous un arbre, puis elle va s'asseoir à distance pour ne pas le voir mourir. Un ange appelle Agar et lui dit « Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de ton garçon. » Puis il lui ouvre les yeux et Agar aperçoit un puits avec de l'eau. Un commentaire de ce passage dit que la source existait déjà, mais qu'Agar ne l'avait pas vue. Son salut était à portée de regard, mais elle restait aveugle. Dieu est celui qui ouvre les yeux. Est-ce que trop souvent, nous ne ressemblons pas à Agar? Nous mourons de soif alors que la source est tout près de nous. Je vous invite à vous lever. Seigneur, nous avons soif, soif de parole et de vie, soif d'évangile et d'esprit. Loin de toi, notre vie s'assèche, doucement notre foi se flétrit. Ouvre nos yeux pour voir la source, fais jaillir la source pour réveiller la prière, souffle sur notre prière pour féconder la foi. Que ton esprit descende sur nous comme une ondée, comme la pluie de la première et de l'arrière saison. Amen. Me voici, Seigneur Sauveur. Nous louons Dieu avec le psaume 92, quelques extraits. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. » Et c'est un autre psaume que nous chantons, le psaume 118, page 136. Nous chantons les deux premières strophes « Célébrez Dieu, rendez-lui grâce ».
Prenez place.
Un ermite du désert fait la comparaison suivante. Lorsqu'on bande les yeux d'un bœuf ou d'un âne, on peut le faire marcher en rond pour entraîner la roue d'un moulin. Mais si on laisse son regard dévoilé, il refuse de tourner autour de la meule. Il en est de même avec l'être humain. S'il se débrouille pour obscurcir son regard, il l'entraîne dans tous les péchés du monde. Excusez-moi, il en est même du démon avec l'homme. S'il se débrouille pour obscurcir son regard, il l'entraîne dans les péchés du monde. Mais si les yeux de l'homme restent ouverts, il peut facilement échapper aux pièges qui lui sont tendus. Cette sagesse nous invite à garder les yeux ouverts sur nous-mêmes. Et c'est ce que nous invite à faire maintenant, en confessant notre péché. Prions. C'est vrai que, Seigneur, nous voulons avoir ce matin le courage de la lucidité. C'est vrai que sans le vouloir vraiment ou sans nous l'avouer, nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne. Notre orgueil, notre paresse à écouter l'Évangile, notre égoïsme, notre convoitise. C'est vrai que nous cultivons toutes ces petites compromissions qui peu à peu nous éloignent de ta vie. Nous voulons maintenant ouvrir les yeux et nous tenir devant toi en vérité. Nous t'en prions que ta vie éclaire notre nuit, que ton pardon guérisse nos compromissions, que ta vérité triomphe de nos obscurités. Oui, nous te le demandons, que ta grâce nous conduise sur le chemin qui mène des ténèbres à la lumière. Nous restons assis pour chanter « Tel que je suis », le 43-10, deuxième strophe. Voici ce que dit Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter « À toi nos louanges » 41-21. Voilà. Pardonnez et libérez, écoutons ce que Dieu nous demande et nous donne la force de faire. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes. Pour qu'aujourd'hui je sois libre, cantique 44-08, deuxième strophe. Comme certains d'entre vous, je suppose, s'en sont rendus compte, nous avons changé nos spontanés, puisque nous sommes entrés dans la période du carême. Et peut-être, si vous avez été attentif, vous avez peut-être perçu la thématique d'aujourd'hui. Non ? Ça veut dire que vous n'avez pas été attentif, alors... vous reconnaîtrez tout à l'heure. Je vais en parler. Une seule lecture pour aujourd'hui, donc dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, les versets 39 à 42. Mais avant d'écouter cet extrait, nous prions. Seigneur, auras-tu pour nous la tendresse qui fait éclore une fleur d'amitié dans ta parole rugueuse ce matin ? Auras-tu pour nous la patience qui fera gonfler la saveur d'un fruit dans ta parole raide ce matin ? Nous t'en prions, Seigneur, franchis par ton esprit les barrages que nous t'opposons et fais éclater le sens de notre histoire. Amen.
Bonjour. Luc 6, 39 à 42. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vaut-il pas tomber tous les deux dans un trou ? Les disciples n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun fera comme son maître. Qu'y a-t-il à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que l'apôtre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil alors que toi-même ne vois pas l'apôtre qui est dans les tiens. Hypocrite. Enlève d'abord la poutre dans ton œil, alors que tu verras alors clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Merci.
Je vous invite à chanter « Parle-moi », cantique 22-06. Place. Donc cet extrait que nous venons d'entendre est inséré dans toute une série d'enseignements dont les liens entre eux sont parfois assez lâches et qu'on a regroupé sous le nom de Sermon sur la montagne. Bon, ça c'est le cadre, il est posé. Maintenant, considérons la question qui nous intéresse, c'est-à-dire à quoi ce texte nous invite-t-il ? Luc commence par nous prévenir, il s'agit d'une parabole, c'est-à-dire d'une comparaison. Jésus ne parle pas de vision, mais de clairvoyance, de lucidité. D'où il ressort qu'il ne s'agit pas ici d'aveugle au sens premier, mais bien au sens spirituel. Plus exactement, l'observation des effets du handicap des gens atteints de cécité peut nous permettre de comprendre notre propre aveuglement. Vous le savez, les aveugles forment avec les lépreux et les paralytiques le gros des guérisons de la Bible. Chacune de ces maladies physiques symbolise une maladie spirituelle ou intellectuelle. Alors comprenez-moi bien, je ne dis évidemment pas que la maladie physique est causée par son pendant spirituel ou qu'elle se double de celle-ci. Au contraire, d'ailleurs, il n'est pas rare que les non-voyants, comme on dit aujourd'hui, soient plus clairvoyants que les autres. À ce propos, j'aimerais faire une autre mise au point. Les aveugles dont parle Jésus sont ceux de son époque. Époque où les aveugles ne pouvaient bénéficier de formation, de chiens, et où rien n'était prévu pour eux. On a progressé à ce niveau-là, même si, bien évidemment, on peut encore faire mieux. On peut toujours faire mieux. Et il n'est pas rare pour moi, aujourd'hui, dans la rue, d'admirer l'aisance et l'indépendance de non-voyants. Bref, j'emploierai le mot « aveugle » pour désigner les personnes souffrant de cette maladie au temps de Jésus, ou pour faire allusion à la maladie spirituelle. Et j'emploierai l'expression « non-voyant » si je devais parler des gens d'aujourd'hui atteints de cécité. Ce n'est pas prévu, mais on n'est jamais à l'abri d'une digression. Bref, l'aveuglement spirituel, donc, ça constitue un sujet récurrent de l'enseignement de Jésus. Et il n'est qu'à se souvenir du début de Jésus dans l'évangile de Luc, que nous avons entendu tout à l'heure. Alors que Jésus revient du désert où il a été tenté, on lui donne à lire à la synagogue un passage d'Ésaïe qu'il conclut en disant « Aujourd'hui, cette parole est accomplie ». Quel est cet extrait ? « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Je ne pense pas que ce soit faire preuve de trop d'audace que de penser que Jésus, le Jésus de Luc, voit dans cet épisode un programme de son ministère, nous guérir de nos aveuglements et nous libérer de nos geôles faites d'illusions dues à cet aveuglement. C'est un combat difficile qu'il va livrer car nous sommes persuadés que nos illusions sont la réalité et que nos aveuglements sont de la clairvoyance. La parabole de Jésus consiste en deux questions rhétoriques. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber dans un trou ? À en croire ce qu'on voit sur Internet, oui, un aveugle qui guide peut guider un autre aveugle, oui, et ils tombent tous les deux dans un trou sans fond, semble-t-il. Oh, ce commentaire est un peu facile, je vous l'accorde. Et surtout, il oublie la suite des paroles de Jésus, la paille et la poutre dans l'œil. C'est devenu une expression française. Il y a même un auteur, je crois que c'est Robert Merle, mais j'en suis pas sûr, qui a créé le néologisme « paille poutrée ». Critiquer alors qu'on n'est pas mieux. Bref, on sort facilement cette réponse à ceux qui nous critiquent, qui ont le toupet de nous faire des remarques. Mais c'est oublier que l'Évangile ne nous donne pas des méthodes pour critiquer l'autre ou esquiver ses remarques, justes ou fausses d'ailleurs, mais s'adresse à nous pour nous rendre lucides sur notre condition et percer à jour nos propres illusions, notamment sur nous-mêmes. Lorsque je me sers de l'Évangile ou de l'Écriture pour critiquer quelqu'un ou pour échapper à une critique, bref, lorsque je me sers de la parole comme d'une arme offensive ou défensive, je peux considérer qu'a priori, je fais fausse route. Une remarque aussi Il existe une explication à cette parabole étrange de poutre et de paille dans un œil qui veut que le mot œil puisse désigner un puits. C'est la même tentative de rationalisation qui veut faire du chat de l'aiguille, par laquelle aurait de la peine à passer un chameau, une petite porte de la muraille de Jérusalem. Je ne sais pas si c'est le cas, si cette porte a vraiment existé ou si œil peut se traduire par puits. Mais c'est compliqué pour rien, un texte simplement hyperbolique. L'exagération, toute très orientale, aide à faire comprendre ce qu'on veut dire et devrait normalement, clairement montrer qu'on est dans une lecture spirituelle et non dans un premier degré. Bref, à cette opposition aveuglement-clairvoyance, Jésus lit un autre couple, le maître, dans le sens de l'enseignant, et le disciple, étymologiquement l'élève. Il nous dit ce qui peut sembler à une évidence, que pour être un maître, il faut être clairvoyant. Que vous prétendiez être un maître ou que vous en cherchiez un, l'absence d'aveuglement doit être le critère. Il faut qu'un maître soit débarrassé, le plus possible du moins, de ce concept à la mode qu'on appelle le biais cognitif. Pour ceux et celles qui ne sont pas au clair sur cette notion, je donne une définition rapide et partielle, piquée sur Internet. Les biais cognitifs sont des formes de pensée qui dévient la pensée logique ou rationnelle et qui ont tendance à être systématiquement utilisées dans diverses situations. Ils constituent des façons rapides et intuitives de porter des jugements ou de prendre des décisions qui sont moins laborieuses qu'un raisonnement analytique, qui tiendrait compte de toutes les informations pertinentes. En plus court, ce sont des préjugés qui nous évitent d'avoir à trop réfléchir. Nous en avons tous, et sans doute sont-ils inévitables. Même s'ils peuvent et doivent être réduits à leur minimum. Mais dès que j'entends parler de ces fameux biais cognitifs, je sors non mon revolver parce que j'en ai plus, ni mon crucifix parce que j'ai séché les cours des exorcismes, mais mon manuel d'autodéfense intellectuelle. Le biais cognitif est l'arme ultime de ceux et celles qui n'envisagent pas que quelqu'un de normalement intelligent puisse avoir une autre opinion qu'eux-mêmes. Si vous n'adhérez pas à leur vision des choses, c'est forcément que vous devez être rééduqué, ce qu'on vous a mal expliqué. Si de telles personnes devaient accéder au pouvoir, elles créeront des camps de rééducation où seront envoyés tous les opposants pour leur bien évidemment, pour les guérir, ça va de soi. On a déjà vu ça dans l'histoire. Dit autrement, on est en droit de penser que ceux qui accusent à tour de bras les autres de biais cognitifs sont ceux qui en souffrent le plus. Ceux qui n'ont pas seulement une paille, mais carrément une poutre dans l'œil. Bien sûr, en tant que chrétien, le seul vrai maître, dans tous les sens du terme, est Jésus le Christ. Il est le seul à avoir réussi à se débarrasser de tous ses préjugés. Et cela n'était pas acquis d'avance. Souvenez-vous de l'épisode avec la femme syrophénicienne dans l'évangile de Marc. Nous pouvons suivre Jésus avec confiance parce que nous avons compris qu'à la différence de bien des autres, l'enseignement de Jésus ne cherche ni à nous maintenir au statut d'élève ou à nous faire adopter son point de vue, mais bien à élargir notre horizon en nous faisant découvrir d'autres façons d'envisager la justice, le rapport avec les autres et avec Dieu. À nous rendre indépendants, autonomes, à devenir notre propre maître et donc à faire nos propres choix, à prendre nos responsabilités. Et l'interpellation hypocrite, fréquente dans la bouche de Jésus, n'est pas ici anodine. Bibliquement, l'hypocrite est moins celui qui donne à voir aux autres une image de lui différente de la réalité que celui qui se trompe lui-même sur ce qu'il est. Quelqu'un qui aurait une poutre dans l'œil, par exemple. Il nous faut donc, avant de prétendre être clairvoyant en ce qui concerne les autres, se débarrasser de nos préjugés. Mais qu'est-ce à dire qu'être débarrassé de ses préjugés ? C'est arriver à être capable d'aimer une personne pour elle-même, non pas à cause ou malgré ses qualités et défauts, ses appartenances ou origines, mais avec eux, sans les prendre en considération. Bien sûr, tout ce que je viens d'énumérer, et bien d'autres choses encore, font partie de nous-mêmes. Mais cela n'est pas nous, même en les additionnant. Pour reprendre Aristote, le doute est supérieur à la somme des parties. Alors, qu'est-ce que c'est que ce « moi véritable » ? Le « moi véritable » serait-ce cette créature faite de briques et de brocs, pleine de défauts et de qualités, intelligente mais qui ne cesse de se tromper, qui refuse de l'admettre, capable tour à tour de générosité et d'égoïsme, de lâcheté et de courage. Non, toujours pas. Le moi véritable, celui que voit Jésus en nous et qu'il nous invite à voir dans les autres, c'est-à-dire... Oui, ce moi véritable, c'est dire tout cela, mais aimé par Dieu. Car n'oublions jamais, la première chose qui fonde notre dignité et la valeur de nos vies, c'est l'amour que Dieu nous porte. Pour l'Évangile, on ne se débarrasse pas de ces aveuglements pour jeter un regard cynique sur le monde et nos contemporains, mais pour voir l'amour de Dieu à l'œuvre, aimer nos prochains et les aider à guérir. Rendre ainsi la vue ne signifie en aucun cas qu'ils vont avoir la même vision des choses que vous. Néanmoins, notre subjectivité ne change rien à ce fait premier, ce qui fonde notre dignité est celle de notre prochain, c'est l'amour de Dieu, qu'il soit perçu ou non. Amen. Cantique 46, 10, les strophes 1, 4 et 5, à la page, je vais noter, hop, 723, ouvre mes yeux, Seigneur, strophes 1, 4 et 5.
Quand vient le soir et le poids du...
restons debout pour dire la confession de foi numéro 5, celle qui commence « Nous croyons en Dieu malgré son silence et son secret ». Ah, moi j'en ai pas. Hop. Ah, si, il est là. Nous croyons en Dieu malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour promis les humains. Amen. Et nous chantons « Heureux qui se confie en lui » 48-06. L'apôtre dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, étant riche, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez rendus riches. Épître aux Corinthiens, la deuxième. C'est maintenant le temps du don, le moment de l'offrande. Ô Christ, t'es donné toi-même pour nous, afin de nous racheter de tout mal et de faire de nous un peuple qui t'appartienne en propre, accueille avec bonté cette offrande comme l'humble témoignage de notre amour. Amen. Quelques annonces et nouvelles. Agnès.
Bonjour à tous et toutes. Alors, nous avons beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Nous commençons chronologiquement par mardi matin de 7h à 7h30 avec la prière du mardi matin, ouverte à tous ici. Pour ceux qui sont inscrits à la chorale, mardi soir, 19h15, il y a bien chorale. Le groupe Parole et Prière se réunira mercredi, ce mercredi 12, de 18h à 19h. Et mercredi, il y a également les amitiés judéo-chrétiennes sur le thème des icônes en question, un thème assez intéressant, à 20h à la Puya. Le conseil d'administration du CERA se tiendra le vendredi 13 au matin. Le groupe Pain, Parole et Partage se réunit samedi à 19h, donc en ces lieux. Et il y aura également un culte du samedi.
Andrea.
Il y a une erreur dans les nouvelles, dans les dates. En fait, le groupe PPP se réunit la semaine d'après, après le culte famille,
d'accord.
Dimanche donc.
Alors, d'accord. Oubliez tout pour le...
Alors, oubliez tout, voilà. Mais tant mieux, comme ça, vous pourrez tous venir au culte du samedi, ce samedi, à 18h. Dimanche, il y aura un culte réduit qui débutera à 9h30, car c'est notre assemblée générale. Tous ceux qui sont inscrits sont invités, également ceux qui ne le sont pas. Vous avez, pour ceux qui sont inscrits qui ne seraient pas disponibles, vous avez des procurations qui sont disponibles à l'accueil. Et sinon, vous avez tous reçu, soit par internet, soit par courrier, les procurations vous permettant de donner des délégations pour voter. Prenez bien la deuxième version sur ceux qui ont reçu les emails, puisqu'il y avait une petite erreur dans la première version. Les comptes de la paroisse et le rapport d'activité sont également à disposition pour ceux qui le souhaitent à l'accueil. Il y a également, ce qui est important, enfin ce qui est réjouissant, le bicentenaire du temple protestant de Ferney-Voltaire du 15 mars au 12 avril, donc il y a un certain temps. Il y aura une exposition avec un bas-relief Histoire de la Réforme. Il y a des sculptures sur bois également. Le samedi 15 mars, il y aura un vernissage de l'exposition de Jean-Pierre Tin, Sculpture sur bois. Et le samedi 29 mars, il y aura à 16h30 un concert organisé par l'Association des Amis de l'Orgue. Et enfin, le dimanche 30 mars, il clôture ce bicentenaire par un culte qui sera présidé par la pasteur Emmanuelle Sebold, que nous connaissons tous, qui est notre présidente de l'EPUF, et qui sera suivi d'une collation pour le bicentenaire du temple de Ferney-Voltaire, et nous sommes tous cordialement invités. Bien évidemment, du 19 au 23 mars, nous avons le grand événement organisé par Marie-Yvonne, notamment avec le Conservatoire d'Annecy, la semaine Happy Back, pour fêter le bicentenaire de Jean-Sébastien Bach. Donc du 19 au 23 mars, vous avez également le programme avec les concerts organisés par le conservatoire, soit à l'auditorium du conservatoire le mercredi 19 mars, soit au temple samedi 22 mars à 18h. Ce sera un tarif unique payant de 7 € dès 10 ans pour 1h15 de concert par le conservatoire. Et ce même samedi à 20h30, vous avez une suite de concerts qui est ouverte à toutes, à tous et toutes, avec une participation bénévole à la sortie, toujours au temple, avec 3 chorales qui sont réunies pour un concert autour de l'oratorio de Noël et quelques cantates. Voilà. C'est un programme très chargé. Le jeudi, il y a un cocktail baroque avec les élèves du département instruments anciens, qui est assez formidable. Et puis, le vendredi 21 mars, vous avez Clavier en folie, et le concert Happy Back à 20h. Donc vraiment, c'est un programme très, très complet que je vous suggère, auquel je vous suggère de participer. Et à l'exception du concert du samedi qui est payant à 7 heures, tout est à votre volonté. Ensuite, le 28 mars, vous avez le groupe Bible en partage à 18h30. Le 28 mars, donc j'ai oublié quel jour c'était. Le carême protestant sur France Culture, vous avez 6 dimanches à 16h, à partir de 16h sur France Culture, la pasteur Marie-Pierre Courneau, sur le livre de Ruth. Si vous ne pouvez pas écouter en direct son intervention, vous pouvez la télécharger ou vous abonner pour pouvoir y accéder. Nous avons aussi le nouveau fascicule de l'ACAT. Je soutiens les Ouïghours, les Kazakhs et les autres minorités musulmanes au Xinjiang. Donc là, vous avez les enveloppes qui sont à votre disposition sur les portants à l'accueil. Vous connaissez le principe, je mets un timbre et j'envoie la lettre avec mon nom, mon adresse et ma signature à son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Je vous rappelle aussi qu'il y a un projet de voyage du 19 au 23 octobre dans la vallée vaudoise. Donc vous avez encore des formulaires d'inscription qui sont disponibles et un RIB pour le versement de la compte de 150 euros. Vous avez les tarifs et c'est organisé par Monique Piachot et Richard de Bernardi. Donc là aussi, à l'accueil, vous trouverez les invitations, les bulletins d'inscription, pardon. Et je crois qu'il y a d'autres annonces de mémoire, au moins une. Si j'ai oublié aussi des nouvelles des uns et des autres, ceux qui en ont.
Merci Agnès. Bonjour à chacune et à chacun. Je recherche des livres de et sur Dietrich Bonhoeffer. Alors internet c'est bien, mais c'est vraiment pas suffisant. Donc si vous avez quelques livres le concernant ou écrits par lui, ça serait mieux. Merci d'avance.
C'est un prêt ou tu...
Alors il peut y avoir un prêt, il peut y avoir un don. Voilà, vous venez me voir à la fin du culte. Merci.
Alors, juste quelques précisions. Quand les vallées vaudoises, c'est les vallées vaudoises d'Italie, pas celles du canton de Vaud. L'ambiguïté existe. Pour ceux qui s'inquiéteraient, parce qu'il y a 15 jours, j'avais annoncé une disparition, il a été retrouvé sain et sauf. Bon. Et troisième chose, je reviens juste, et dernière, sur vérifier bien le pouvoir. Parce que si ce n'est pas la bonne date, c'est une erreur de date. Il ne sera pas valable. Et ceux qui ont reçu par courrier n'ont pas reçu de deuxième. Bon, évidemment, on n'avait pas Donc voilà. Je vous invite à la prière. Pour ceux qui cherchent Dieu à tâtons, qu'ils le trouvent. Pour ceux qui croient posséder Dieu, qu'ils le cherchent. Pour tous ceux, toutes celles qui ont peur de l'avenir, qu'ils aient confiance. Pour ceux qui ont échoué, qu'ils aient de nouvelles chances. Pour tous ceux qui doutent, qu'ils ne désespèrent pas. Pour ceux qui s'égarent, qu'ils trouvent une maison. Pour ceux qui sont seuls, qu'ils rencontrent quelqu'un. Pour ceux qui ont faim de tout, qu'ils soient rassasiés. Pour ceux qui sont rassasiés, qu'ils apprennent la faim. Pour ceux qui réussissent, qu'ils soient sans orgueil. Pour les puissants, qu'ils se sentent vulnérables. Et pour tous ceux qui vivent dans ce monde, entre l'espoir et la peur, et pour nous-mêmes, prions Dieu. Délivre-nous de la peur et des fausses sécurités, et donne-nous ce qui est bon pour nous, par le Christ notre Seigneur, lui qui nous a enseigné à te dire « Notre Père, qui es aux cieux ». Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jean le Baptiste est dans sa prison, il a entendu parler de Jésus et de ce qu'il fait. Il envoie quelques-uns de ses disciples pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou doit-on en attendre un autre ?» Jésus répond « Allez raconter à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et nous terminerons en chantant la paix du Seigneur, 62-83. Dieu est le même hier, aujourd'hui, maintenant et demain. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ouvre votre regard, il libère votre marche, il guérit votre passé, il réveille votre écoute. Il ressuscite votre foi. Que son évangile ne soit pour vous maintenant ni une distraction, ni une tradition, mais la plus grande nouvelle qu'on ne vous ait jamais annoncée. Amen. Bon dimanche à tous.
Thank you.